Chapitre 7e. Le docteur Bardière et son fils arrivèrent presque en même temps pour trouver la maison en émoi. Aline était sans connaissance. On l'avait découverte étendue par terre. Et cet évanouissement sans cause apparente, qui se prolongeait, affolait la mère. Enfin, la jeune fille revint à elle, très lentement, très péniblement. Lorsqu'elle ouvrit les yeux et qu'elle aperçut, penchée sur son lit, sa mère et à côté de sa mère, le docteur, elle poussa un cri rauque et tremblante, blême, elle chercha à se reculer en murmurant « Moi, maintenant, moi, après lui ?» Le mari et la femme se regardèrent effarés, puis le docteur dit avec calme « Il y a eu un ébranlement au cerveau. Elle aura eu quelques frayeurs. Vois si elle te reconnaîtra, Julien. » Julien approcha vivement. Aline le regarda, et ses yeux de folle se calmèrent de suite. Il lui parlait doucement, comme à une enfant malade, avec des petites câlineries et des caresses. La jeune fille le regardait toujours, comme si elle cherchait dans les yeux de son fiancé une réponse à quelque question pénible. Alors elle se mit à pleurer. « Elle est sauvée, » dit le docteur. « Ce ne sera rien. » « Il faut tâcher de savoir ce qui a pu lui causer une telle frayeur. Viens, Julien, elle n'a plus besoin que de sa mère. » Mais lorsqu'Aline se trouva seule avec sa mère, l'excitation nerveuse augmenta au lieu de se calmer. « Tâche de dormir, mon enfant. Songe qu'il faut que tu sois tout à fait bien pour le grand jour. » Aline se souleva sur un coude et du regard appela sa mère. Alors, très bas, elle lui dit « Il faut empêcher ce mariage, maman. » « Tu sais bien que je ne peux pas être la femme de Julien, tu le sais bien. » Madame Bardière regarda sa fille en silence, cherchant à deviner le sens de ses mots. « C'est ta folie qui te reprend, ma pauvre petite. »« Non, mère, non, je ne suis pas folle, mais je ne peux pas épouser Julien. Je ne le veux pas, je ne le peux pas. Pourquoi ?» Les deux femmes se regardaient les yeux dans les yeux. Les lèvres décolorées d'Aline cherchaient à former des mots qui se mouraient sans avoir été prononcés. Madame Bardière était terrible à voir. Un instant, le soupçon effleura son esprit, mais elle le repoussa. Les morts ne parlent pas, et sans une révélation, comment Aline saura-t-elle la vérité? Mais la jeune fille apprit, en ces quelques instants, à connaître sa mère comme elle ne l'avait encore jamais connue. Elle se sentait impuissante devant cette volonté implacable, impitoyable. Comment dire à sa mère qu'elle l'aimait encore, qu'elle avait de tout temps admiré, qu'elle voyait entourée du respect de chacun? « Je suis la fille d'une criminelle. Il est le fils d'un assassin. Et vous voulez que nous nous unissions sous le toit même où votre victime a tout de gisait, tuée par vous ?» Non, cela elle ne pouvait le dire. Elle était brisée, sans force physique ou morale. Seulement son regard quitta le visage de sa mère et se porta à celui de son père, comme pour lui demander grâce. Que pouvait-elle, pauvre enfant, contre la double fatalité qu'il avait prise, qui l'étouffait ? Il devait bien comprendre qu'elle se débattrait en vain. Madame Bardière chercha à adoucir sa voix. Elle avait surpris le regard épouvanté que sa fille adressait au portrait de son père. Il fallait détourner son attention à tout prix. « Voyons, Aline, tu ne me réponds pas. Tu ne veux pas me dire quelle est cette mystérieuse cause qui, subitement, rend impossible ton mariage? C'est alors que cette cause n'existe pas. Avoue que ce sont tes anciens scrupules réveillés sur le tard. » Aline, voyant là un moyen de salut, s'écria vivement « « Oui, maman, oui. » Alors les mêmes arguments qui, une fois, ont triomphé de ces scrupules absurdes, en triompheront de nouveau. Il n'y a aucun lien entre vous deux. Vous êtes nés tous deux avant que je ne visse sans père. Ton père à toi est mort, sa mère à lui est morte, et moi, veuve, j'ai épousé son père, veuf. Naturellement, les deux enfants ont été élevés comme frères et sœurs, sans être le moins du monde frères et sœurs. De suite, nous avons projeté votre mariage. Nous l'avons préparé longtemps à l'avance. Nous nous sommes arrangés pour que, l'âge étant venu, votre affection fraternelle changeât de caractère et devint de l'amour. S'il y avait eu à cela le moindre moelle, crois-tu que nous, dont vous êtes les enfants chéris, nous l'aurions désiré, préparé? Et crois-tu aussi qu'une chose aussi ardemment souhaitée par nous deux, nous l'abandonnerons au dernier moment, parce qu'une fantaisie de petite fille se dresse entre nous et le but rêvé auquel nous touchions déjà? Si tu croyais cela, tu te trompais. Si je te suppliais, maman, si je te disais que mon cœur se brise. Tu n'aimes donc plus Julien? Ah si, je l'aime plus que jamais. Alors, ma chère Aline, tu seras sa femme, c'est moi qui te le dis. Je ferai ton bonheur, fût-ce malgré toi, et plus tard, tu m'en remercieras. Non, non, écoute-moi, maman. Si tu m'aimes, si tu m'as jamais aimé, écoute-moi. Qu'as-tu à me dire? Aurais-tu vu le revenant dont parlent nos parisiennes? Oui, cria l'enfant à bout de force. « Oui, je l'ai vu, et il m'a parlé. » « En vérité, Aline, tu m'inquiètes. Les nerfs chez toi sont complètement détraqués. C'est au docteur d'agir maintenant. »« Non, non !» s'écria Aline épouvantée. « Pas lui. Jure-moi qu'il n'entrera pas ici. » Décidément, Aline s'en est trop. C'est porté bien loin la version que tu avouais à mon mari depuis... Depuis... Toujours. Depuis mon enfance, mère. Depuis une veille de Noël où... Eh bien, achève. » La mère, sans s'en douter même, tenait les mains de sa fille comme dans un étau. Ah, la mémoire n'était qu'engourdie. Elle est réveillée maintenant, dit-elle. Et que te racontent tes souvenirs? Ah, mais tu parleras cette fois, parle. Tu me fais mal, maman. Elle lui montra ses poignets rougis. Mais parle, parle donc. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mon père? Ton père est mort une veille de Noël, la nuit même où tu es tombé malade. Qu'y a-t-il dans cette coïncidence de si terrible et de si étrange? Comment dire le reste? Dominée par le regard de sa mère, elle se taisait. Elle ne pouvait pas tout dire. Du reste, elle commençait à douter de la vérité. Après tout, que savait-elle? D'un cauchemar de son enfance, d'un rêve plus qu'à demi effacé, avait surgi tout d'un coup un tableau affreux. Venue, elle ne savait plus d'où ni comment. Toutes les circonstances qui auraient pu le lui expliquer restaient vagues. Elle ne se rappelait plus comment elle s'était trouvée à la porte de cette chambre de malade, comment elle en était partie, comment surtout personne n'avait jamais deviné qu'elle était sortie de sa couchette d'enfant pour assister à une chose terrible qui, certes, n'était pas faite pour ses yeux. Puis cette lettre de son père, que prouvait-elle? Qu'un malade haineux et soupçonneux imaginait des choses qui n'existaient que dans un cerveau affaibli. La crise qu'il avait pressentie l'avait emporté. Seulement les soupçons injurieux qui auraient dû mourir avec lui, il les avait légués à sa fille pour le malheur de celle-ci. Aline pleurait, se sentant bien faible, horriblement triste. Et comme sa mère, impatientée, cherchait à en tirer quelque chose de défini, elle ne trouva que ceci. Cette nuit, il y a 11 ans, lorsque j'ai réveillé tout le monde par mes cris, Denis a vu la marque de pas sur la neige. Madame Bardière devint subitement très pâle. Mais cette faiblesse ne dura qu'un instant. Tu es folle. Quel rapport peut-il y avoir entre ses pas dans la neige, en admettant que Denis fut bien réveillé, ce qui n'est pas prouvé, et la mort de ton père? Un maraudeur avait passé par là. Oui, sans doute, sans doute. Pardonne-moi, maman. Je ne sais plus ce que je dis. J'ai la tête si fatiguée. Je crois que j'ai rêvé. Tâche à l'avenir d'avoir des rêves plus gais. Embrasse-moi. Tu sais que je t'aime et que je veux ton bonheur, n'est-ce pas? Oui, maman. Ce n'était plus qu'une petite fille, brisée d'émotions trop fortes pour elle. Une petite fille qui se laisserait mener. Sa mère l'embrassa, la dorlota, l'aborda bien dans son lit, comme dans le passé lointain où l'était vraiment une petite fille. Dors, mon enfant. C'est surtout de sommeil que tu as besoin. Presque toutes les jeunes filles, à la veille de leur mariage, subissent une crise nerveuse. Elle a été plus forte chez toi que chez les autres. Voilà tout. Dors bien. » Et Aline, obéissante, s'endormit. Les ressorts chez elle s'étaient tendus au-delà de toute endurance. Le sommeil fut le bienvenu. Ce qu'elle aurait demandé, c'eût été de dormir ainsi, toujours, sans réveil possible. Mais elle se réveilla au matin. Le soleil entrait joyeusement dans sa chambre, et Aline se souvint qu'elle était arrivée à la veille de son mariage. Elle se souleva avec peine, se sentant encore faible de la crise qu'elle avait subie. Son premier regard fut pour le portrait de son père, et elle frissonna. Du jardin, il s'éleva un son joyeux. Julien fredonnait sous ses fenêtres. Elle se leva, s'habilla à la hâte. Elle tenterait encore cette dernière chance. Elle s'adresserait à son fiancé, elle le sommerait de lui rendre sa liberté. Il lui semblait que son père lui suggérait cette idée, et en quittant la chambre, elle dit au portrait « Oui, père, oui. Tu vois bien que j'y vais. » Le cerveau ébranlé ne se rendait pas bien compte de la réalité des choses. Pour la pauvre fille, ce portrait était une chose vivante qui dirigeait ses actions, qui la menait par une force mystérieuse et impérieuse. Mais la beauté de cette matinée d'été agit sur la jeune fille comme une caresse. Elle se sentit de nouveau pleine de vie et d'espoir. Elle avait 18 ans. Le bonheur l'appelait, l'amour l'attirait. Et qu'allait-elle faire? Détruire ce bonheur, écarter cet amour. Elle marcha plus lentement. Julien avait quitté le jardin, mais elle entendait encore sa voix, un peu plus loin dans le parc, et elle suivit la voix. Julien, en l'apercevant, courut à elle. Te voilà. Te voilà enfin, ma bien-aimée. Tu ne souffres plus, tu vas bien, n'est-ce pas, tout à fait bien? Ta mère m'avait bien dit que ce ne serait rien, que tu dormais cette nuit d'un sommeil d'enfant. Mais tu es pâle. Mets-toi là, sur ce banc, et laisse-moi te regarder, te parler. Songe qu'il y a 3 grands jours que je suis absent, et revenir pour t'apercevoir un instant sur ton lit, blanche comme une morte. Qu'avais-tu, mignonne? À moi, tu peux bien le dire, n'est-ce pas? Quelque chose t'a fait peur? Oui, bien peur. Elle tremblait, et lui, cherchant à la rassurer, la tenait enlacée. Il se sentait bien dans ses bras. Elle ne craignait rien. Toute sa sauvagerie s'en était allée. La voix de Julien était, pour elle, comme une musique qui la berçait. Puisqu'il fallait se détourner de lui, le fuir pour toujours, elle s'accordait ce répit très doux. Ce serait vite fini. Elle en garderait au moins le souvenir. Aussi restait-elle auprès de son fiancé, paresseuse, ne voulant pas parler, car elle avait peur d'avance de ce qu'elle avait à lui dire. « C'est gentil à toi d'être descendu. Tu as entendu ma voix, n'est-ce pas? J'ai chanté exprès sous tes fenêtres, comme un amoureux d'opéra comique. J'ai pensé à toi toute la nuit. Je me cassais la tête pour deviner ce qui t'avait fait mal. Non, ne parle pas encore. Tu me le diras plus tard, demain, quand nous serons mariés. Ne tremble pas, mignonne. Je te fais donc peur. Va, tu ne sais pas quelle tendresse je ressens pour toi, quel désir de te rendre heureuse. S'il te faut du temps pour t'accoutumer à moi, tu n'auras qu'un mot à dire. Que faire pour te prouver que tes volontés seront mes volontés ? » Elle se sentait gagnée peu à peu par l'amour jeune et chaud qui vibrait dans les paroles de Julien, qui brillait dans ses yeux. Si elle ne se reprenait pas, jamais elle n'aurait le courage de lui dire ce qu'il fallait pourtant lui dire. Elle se redressa presque brusquement. « Écoute, Julien, ce mariage, notre mariage, ne doit pas avoir lieu. C'est à toi que je m'adresse pour empêcher cette chose monstrueuse. » Le jeune homme la regardait, hébété, ne comprenant pas. Alors, très rapidement, elle continua. « Tu sais si je t'aime. Toute ma vie, je t'ai aimé. Toute ma vie, je t'aimerai et n'aimerai que toi. Alors crois-moi. Lorsque je te dis que notre union serait une chose horrible, hors nature, impossible. Ma pauvre Aline, ta folie d'hier te reprend. Impossible, pourquoi? 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 Elle s'arrêta, balbutiante, terrifiée. Pas plus qu'à sa mère, elle ne pouvait lui dire la vérité. Détruire d'un mot, et d'un mot qu'elle ne saurait prouver, le respect et l'affection d'un fils pour son père. De nouveau, elle se sentait impuissante à se débattre contre la fatalité qui l'étreignait. « Ah, pourquoi ne pas me croire ? » s'écria-t-elle. « Me croire sur parole ? Puisque tu vois que mon cœur se brise, que jamais je ne t'aimais comme je t'aime maintenant, tout en te criant « Épargne-moi, épargne ta sœur !» Julien crut comprendre enfin. Cette conscience timorée, mal apaisée, se révoltait de nouveau, maintenant que le jour du mariage arrivait. Il se prit à sourire doucement, et doucement aussi il attira sa fiancée dans ses bras. Aline, plus qu'à demi conquise, se laissait faire. La tête renversée sur l'épaule de Julien, elle leva les yeux à ses yeux d'amoureux qui, de moment en moment, la fascinaient. « Ma chère peureuse, fie-toi à moi. Je te jure que tu peux, en toute paix de conscience, mettre ta main dans ma main pour la vie. Il ne peut y avoir d'obstacle qui nous sépare. Hélas, si tu savais. Quoi encore ? Tu vois, tu n'as rien à dire puisque tu ne dis rien. Et me parler à moi, ce ne serait pas plus que de te parler à toi-même, car nous ne faisons plus qu'un, toi et moi et toi. Rien sur la terre, rien dans le ciel ni dans l'enfer ne saurait nous séparer, ma bien-aimée. Tu en es bien sûre? Sûre comme je suis sûre que tu es belle et que je t'adore? » Et lentement, il posa ses lèvres sur les lèvres de sa fiancée. Aline, très pâle, ne se débattait pas. Elle avait seulement des larmes plein les yeux en le regardant. « Julien, je te jure que le moment est solennel. Veux-tu prendre sur toi la responsabilité absolue de notre mariage ? Je le veux. Si par la suite tu découvres que j'aurais dû résister encore, tu te rappelleras que j'avais essayé de rompre notre mariage au dernier moment et que je ne l'ai pas pu. Tu te rappelleras que j'étais vaincu par ton amour, par mon amour aussi, hélas, fille sans force que je suis. Et tu ne me diras pas ma faiblesse? Mais quel est ce mystère? Un cauchemar, un rêve qui me hante, un spectre qui m'est apparu. Pauvre nerveuse que tu es, Tu auras eu peur dans ce vieux château et on a eu tort de te laisser seule. C'est cela, j'ai cru voir des choses que je n'ai pas vues, comprendre des choses que je n'ai pas comprises. Tu me le persuaderas, n'est-ce pas, Julien ? C'est déjà fait. Vois que tes couleurs reviennent. Tu n'as plus peur maintenant ?
Non, pas lorsque tu es là, lorsque j'entends ta voix, lorsque je sens ton bras autour de moi. Tu me protégeras, tu me garderas, tu m'empêcheras d'entendre une voix qui sort de la tombe.
N'y pense plus, mignonne, je t'en supplie.
Mon père m'a parlé longuement de ta nature ultra-nerveuse, des crises de ton enfance. Tout ce qu'il te faut, c'est le calme, c'est le bonheur. Ce vieux château te fait peur, nous n'y resterons pas. Après le mariage, tout le monde doit partir, nous laisser seuls ici. Nous l'avions décidé ainsi, tu t'en souviens, ma chérie, car c'est un gentil nid d'amoureux. Mais puisqu'il te déplaît, nous partirons aussi. Je commanderai une voiture. Nous irons où tu voudras. Seulement, nous garderons notre secret, n'est-ce pas, ma chérie ?
Dans la pensée des autres, nous serons toujours ici. Ce sera notre premier secret à nous deux.
Elle disait oui. Elle consentait à tout. Elle avait voulu obéir à son père, rompre avec son bonheur, oublier son amour. Mais l'amour était le plus fort. Julien la garderait, la protégerait contre tous, contre elle-même aussi. Madame Bardière vint surprendre les deux amoureux. Elle sourit de voir sa fille auprès de celui qu'elle avait voulu fuir. Le docteur avait eu raison. La crise nerveuse, une fois passée, il n'en resterait rien qu'un peu de faiblesse et de fatigue. Peut-être même la jeune fille ne gardera-t-elle qu'un souvenir vague de ses hallucinations. Et en effet, Aline ne parlait pas des événements de la veille. Personne n'y faisait allusion. Seulement, elle gardait un air étrange. Tout ce qu'elle faisait ou disait, elle semblait le faire et le dire dans un rêve à demi éveillé. Ce n'était que lorsque Julien lui parlait, lui prenait la main, qu'elle secouait l'espèce d'engourdissement qui l'avait envahi. « La faiblesse, » disait le docteur. On la forçait à manger, on lui donnait des stimulants et docile, elle mangeait et elle buvait. Ainsi se passa son dernier jour de jeune fille. Le lendemain, dès la première heure, Aline se laissa habiller. Les beaux vêtements de mariée, son voile, sa légère guirlande de fleurs d'oranger étaient épars sur les meubles. Elle tressaillit en voyant son voile jeté sur le petit bureau sous le portrait. Elle était horriblement pâle. Lorsque sa mère entra et l'embrassa, Madame Bardière fut effrayée de son air étrange. « Tu n'es pas bien ?»«
Je n'ai pas dormi, » répondit Aline.
Mais elle ne dit rien de plus. Elle ne parla pas des angoisses qui de nouveau l'avaient assaillie, de ces terreurs qui touchaient à la folie. Bientôt le château fut plein de bruit et de mouvement. Les invités arrivaient. Les voitures se rangeaient au bas du perron. Les toilettes claires des femmes égayaient les allées du jardin. Des voix joyeuses montaient dans l'air très pur. Le temps passait et on trouvait que la mariée tardait bien à descendre. Le mariage à la mairie et le mariage à l'église demanderaient un certain temps. On aurait bien faim avant de pouvoir s'attabler au déjeuner où une trentaine d'invités devaient prendre place. Julien, l'air radieux, allait d'un groupe à un autre et faisait prendre patience. Aline n'avait pas été bien depuis l'avant-veille. On souriait, trouvant cela très naturel. Et les femmes se racontaient entre elles comment, à la veille de leur mariage, elles avaient une peur bleue. Mais lorsqu'Aline apparut enfin, on ne trouva pas cette émotion-là naturelle du tout. On ne reconnaissait presque pas cette figure d'une blancheur de cire, ses yeux grands ouverts qui semblaient voir ce que d'autres ne voyaient pas. Il y eut un moment de silence terrifié. Qu'avait-elle ? Enfin, une invitée, plus brave que les autres, s'approcha pour féliciter la mariée. Elle ne résista pas à la tentation de lui souffler. Dit Aline, « Vous avez vu le revenant, enfin ?» La jeune fille, alors, avec un sourire navré, répondit « Oui, madame, oui, j'ai vu le revenant, enfin. » La Parisienne se recula vivement, elle avait peur. Julien saisi s'était approché de sa fiancée, et dès qu'il fut auprès d'elle, son étrangeté de somnambule la quitta. En le regardant, la vie lui revenait. Un peu de couleur aux yeux et aux lèvres, un peu d'expression aux yeux. « Reste près de moi, mon Julien, je t'en supplie. » Ce fut pour elle une contrariété qu'il ne put monter dans la voiture avec elle. Mais comme il la plaçait, arrangeant les plis de sa robe et de son voile avec une sollicitude presque féminine, en lui parlant à voix basse, l'écoutait en souriant vaguement. Pendant tout le trajet, elle fut très tranquille, répondant avec effort aux questions de sa mère, mais y répondant, cependant. À mesure qu'on s'éloignait du château, elle devenait plus calme. Pendant la double cérémonie, Aline, auprès de Julien, de son mari, suivait machinalement les paroles du maire et du prêtre, faisant ce qu'on lui disait de faire. Elle mit enfin sa petite main glacée dans la main de son compagnon d'enfance, qui devenait le compagnon de sa vie tout entière, mais elle n'avait pas l'air de bien comprendre ce qu'elle faisait. Les voitures retraversèrent le village, les allées d'Étigny bordées de curieux, de désœuvrés, pour qui cette noce du pays était un grand événement. Aline se rappela vaguement que, 6 semaines auparavant, elle avait, pour la première fois, traversé cette grande avenue bordée de sa double rangée d'arbres, ses hôtels où les énormes ombrelles rouges abritaient des baigneuses en toilette, les restaurants avec leur luxe clinquant, les musiciens ambulants, les enfants sur des ânes pomponnés, des troupeaux de chèvres, des ascensionnistes, la pique à la main. Et il lui semblait que ce souvenir remontait à des années. Les regards qui se concentraient sur elle la gênaient. Elle aurait voulu se cacher. Elle s'enfonçait dans son coin de la voiture, mais les regards l'y suivaient. Julien, la voyant mal à l'aise, dit au cocher d'aller plus vite. Alors, se sentant emporter avec rapidité, Aline aurait voulu retarder l'arrivée. Le château qui l'attendait là-haut lui faisait horriblement peur. Dans le vague de ses idées troublées, il lui semblait que c'était un monstre affreux et informe qui l'attendait, accroupi, pour la dévorer. « Nous ne resterons pas là, au château. »« Non, ma mignonne, » répondit Julien tout bas. « Mes préparatifs sont faits. Quand tous les autres seront partis, nous partirons à notre tour. Es-tu contente ?»«
Oui, cher Julien. »«
Tu n'as plus peur ?»«
Je ne sais pas. »
Elle tremblait très fort et ne parvint pas à la rassurer. Alors commença le supplice du déjeuner. À la campagne, il n'y a guère moyen de remplacer le repas par un buffet. Il y avait quelques personnes venues de loin qu'on ne pouvait renvoyer sans cérémonie. Mais le déjeuner fut lugubre. La mariée était sans mouvement, sans voix, les yeux dilatés par une terreur sans nom. Quand sa mère lui parlait, ou que Julien cherchait son regard, elle reprenait possession d'elle. Pendant quelques instants, elle arrivait même à sourire. Mais elle retombait presque aussitôt dans son attitude d'hallucinée. On se regardait, on se questionnait, et les conversations montaient à un ton de gaieté factice, tombaient d'elles-mêmes. Madame Bardière se sentit gagnée par l'effroi visible de sa fille. Que devinait-elle? Que savait-elle? Et elle regretta presque de n'avoir pas provoqué une explication suprême. Partir, fuir, aller bien loin avec son mari, qui était son complice, ne plus revoir ce château hideux où elle avait tant souffert, c'était là sa grande préoccupation. Aussi, lorsque les invités, mal à l'aise, demandèrent leur voiture, elle hâta leur départ. Bientôt elle-même fut prête pour le voyage. Son mari était à côté d'elle, les malles parties, les petits paquets entassés sur la banquette. À l'inverse des mariages ordinaires, les mariés restaient, tous les autres partaient. Aline était encore en robe de mariée. Seulement, on lui avait ôté son voile. Elle se tenait à côté de Julien. Elle avait vu partir tous les invités. Maintenant, elle assistait au départ de sa mère et du père de son mari. Ses yeux ne les quittaient pas, ses deux complices. Si elle avait, sous l'influence de son amour toujours croissant pour Julien, cherché à se tromper elle-même, le visage de sa mère, sur lequel elle lisait la terreur, le remords, la hâte d'échapper à une obsession, lui criait la vérité. Elle était fixée maintenant. Elle savait. Le docteur était plus calme que sa femme, mais il était très pâle. Et de temps à autre, Aline, à qui rien n'échappait, voyait trembler sa lèvre inférieure. Et aux yeux des autres, aux yeux même de Julien, il n'y avait dans l'attitude du docteur et de sa femme que l'émotion toute naturelle d'une séparation, qu'une hâte aussi de laisser seuls ces deux amoureux d'hier, époux d'aujourd'hui. En embrassant sa fille, Madame Bardière éclata en sanglots. « ma chérie, ma petite Aline, tu sais que je n'ai voulu que ton bonheur. » « Et tu le lui auras assuré, ce bonheur, mère. J'en réponds, » s'écria Julien. Aline ne dit rien. Elle se laissa embrasser par sa mère, par son beau-père. Puis, lorsque la voiture grinça sur le sable, elle fut prise d'un grand frisson. « Rentrons, ma bien-aimée, » lui dit son mari. « Toutes ces émotions t'ont brisé. Écoute, la voiture ne viendra nous chercher que dans 1 heure. Repose-toi un peu, puis je t'enverrai la femme de chambre qui t'aidera à passer ton costume de voyage. » Très doucement, il la conduisit à sa chambre.
ne m'envoie personne, Julien. Je voudrais être seule, tout à fait seule. »
Et seule, elle entra dans sa chambre. Ce qu'elle voulait y faire, c'était ceci. Après toute une nuit d'angoisses atroces, de visions qui amenaient une sueur froide sur tout son pauvre corps tremblant, elle s'était révoltée contre cette tyrannie d'Amor. Était-il coupable, Julien et elle? Était-ce juste de les torturer, de leur ôter le bonheur de la vie? Et sous le baiser de son fiancé, la jeune fille s'était sentie femme. Elle aimait Julien en femme. C'était bien son droit. Qu'y avait-il entre lui et elle? Un papier, une lettre venue de la tombe. Ce papier, elle le détruirait. Elle finirait bien par l'oublier un jour. Un peu de feu, quelques cendres jetées au vent. Et qu'existerait-il du secret terrible, ignoré de tous, hormis de la fille de l'homme assassiné? Dès que la porte se fut fermée sur elle, Aline alla droit au petit meuble et fit jouer le ressort. Machinalement, elle alluma une bougie. Dès que le papier flamberait, elle le jetterait dans la cheminée vide, et tout serait dit. Déjà la flamme léchait le papier lorsque vivement elle le retira. Il lui semblait qu'elle enterrait de nouveau son père, et sans lui dire adieu. Cela, ce serait mal. Et le souvenir très vif des caresses passionnées de ce père, cet unique souvenir qui avait surnagé dans le naufrage de sa mémoire d'enfant, la ressaisit. Elle leva les yeux au portrait qu'elle évitait autant que possible de regarder, et dont son imagination surexcitée, torturée, le portrait vivait. Les yeux la brûlaient. Les lèvres lui criaient les mots de cette lettre qu'elle voulait détruire. Ah non, elle n'oublierait jamais. Ah non, la destruction de la lettre ne signifierait rien. Était-elle enfant de croire une chose pareille? Il y avait un gouffre entre Julien et elle, entre son mari adoré, et elle. Des phrases de la lettre se heurtaient dans son pauvre cerveau détraqué. « Aline, ma fille adorée, écoute la voix qui sort du tombeau et qui te crie « Vengeance, vengeance !» Elle ne savait plus ce qu'elle faisait, mais elle voulait fuir, fuir son père d'abord, mais fuir Julien surtout. Un baiser de lui la tuerait. Elle ne voulait plus le voir, jamais, jamais. Elle trouverait bien moyen de quitter le château, d'aller n'importe où. Elle se rappelait vaguement qu'il y avait un couvent de femmes près du Gave en bas. On la recevrait peut-être, on la cacherait. Julien ne la trouverait pas. Aline ouvrit la porte et se glissa dans le grand vestibule. Mais Julien était aux aguets. Il n'osait entrer chez sa femme, mais la voyant si pâle, si agitée, il avait craint une nouvelle crise et se tenait tout prêt à la secourir. En la voyant sortir, toujours en toilette de mariée, serrant quelque chose convulsivement sur sa poitrine, la figure plus étrange et plus folle que jamais, il ne put retenir un cri. « Mon Aline adorée, qu'as-tu ?» Comme une pauvre biche traquée, Aline se mit à courir. Elle ne prit pas l'escalier, car il se trouvait sur la dernière marche. Elle enfila les grands couloirs de la partie ruinée du château. Il la suivait, mais doucement, pour ne pas l'effrayer, l'appelant. Elle ne se retourna pas une fois, et elle courait follement. Au bout du corridor, il n'y avait plus qu'à revenir sur ses pas, ou à monter à la tour. Aline monta, toujours en courant. Alors Julien commença à avoir très peur. Au lieu d'aller tout doucement pour ne pas effaroucher la pauvre enfant, il prit son pas de course. En quelques instants, il se trouva dans l'escalier tournant, puis subitement, il s'arrêta. Il était inutile de monter jusqu'en haut. Un cri terrible déchira l'air, le cri descendait. Julien chancela, puis se précipita au bas de l'escalier et ouvrit la petite porte qui donnait sur l'allée circulaire au bas du précipice. Aline était descendue plus vite que lui. Elle était tombée de cette hauteur vertigineuse. On eût dit quelque grand oiseau blanc descendu des nuages. Il la retrouva tout au bord du ravin, arrêtée là par le tronc d'un arbre. La chute lui avait été clémente, la mort instantanée. La colonne vertébrale s'était brisée contre l'arbre qu'il avait retenu au bord de l'abîme, mais la tête était intacte et ses jolies mains blanches tenaient toujours, pressées contre sa poitrine, un papier froissé. Ce papier, Julien l'envoya à son père avec deux mots seulement. « Je pars pour le Tonkin. Dieu merci, on peut y trouver la mort. » Le docteur et Madame Bardière sont de plus en plus respectés dans ce monde si mêlé de Paris. La réputation du docteur s'accroît tous les jours. Mais on a peu l'occasion de voir Madame Bardière. C'est presque une vieille femme dont les mains ont gardé un tremblement nerveux et les yeux une expression égarée depuis la mort tragique de sa fille,
c'est Aline, qui le jour de son mariage, par imprudence ou dans un accès de folie, on n'a jamais su au juste, était tombée d'une haute tour et s'était tuée raide. Ainsi s'achève « Des pas dans la neige » de Jeanne Mairet.